Grâce à elle, c'est un petit morceau de France, de Piaf, de cabaret qui rythme les nuits de Buenos Aires. Dans ses chansons, elle partage aussi toute l'énergie, la richesse artistique et la buena onda argentine. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la chanteuse et comédienne Nana Enada. Chers auditeurs, bienvenue dans Un puente sobre el océano. Hola Nana.
Hola Jérôme, comment ça va?
Écoute, ça va très bien et toi?
Très très bien, merci.
Alors, quand je t'ai contacté pour préparer cette émission, tu m'as dit « je préfère les interviews spontanées, sans préparation, pour une rencontre en direct ».
Voilà.
J'ai adoré le concept.
C'est ça, parce qu'après tu te répètes et t'as l'air bête.
Mais bon, je me suis plongé tout de même dans ta chaîne YouTube, j'ai lu ton CV et j'ai très vite compris que le plus important, c'était peut-être de se laisser emporter. Non pas par la foule, mais par ta voix et tes chansons. Alors dis-moi, elle te vient d'où cette énergie incroyable et si communicative que tu offres à ton public sur scène?
Oh ben, merci, je ne savais pas. Tout ça, c'est bien joli. Alors l'énergie, je pense qu'elle vient de la vie elle-même, des voyages, des rencontres, des chocs de culture et de la complémentarité des cultures aussi.
Alors Piaf, le cabaret, les années folles, mais aussi des morceaux beaucoup plus intimistes comme « Penser que le soleil lui-même a des ennuis » avec le groupe Secretos.
Oui.
Un titre grâce auquel tu nous transportes vers un état de fragilité sublime. Qu'est-ce qui te guide au moment d'entamer le processus de création d'un spectacle, de composer une chanson ou bien encore de choisir un rôle au théâtre ou au cinéma?
Eh bien, ça dépend du spectacle. C'est donner un cadre tout d'abord parce que c'est bien beau d'être libre, mais on a besoin de cadre finalement pour être encore plus libre au milieu de ce cadre. Donc là, t'as cité des chansons qui sont issues soit du Nana Canta Piaf, qui est donc un hommage à Piaf, penser que le soleil qui faisait partie de Lumière, un hommage à Jeanne Moreau que j'avais créé avec des textes de sortie, enfin que j'avais concocté comme ça un spectacle autour de la parole de Jeanne Moreau. Et puis il y a d'autres spectacles qui sont conçus plus autour de mes chansons. Et tu as nommé le cabaret. Alors le cabaret, c'est une espèce de joyeux délire qui prend vraiment le parti de la liberté, où c'est comme une montagne russe. Alors qu'est-ce qui guide le choix de mon répertoire? C'est le caprice, c'est l'imprévu. Là encore, je prépare souvent au dernier moment d'ailleurs. Donc je me donne comme un cadre, un jeu, c'est comme un mode d'emploi. Disons qu'il y a un titre qui vient guider tout le reste, ou alors une lubie du moment. Et j'essaye d'être perméable un peu à ce qui se passe autour, que ce soit dans la ville de Buenos Aires en l'occurrence, ou dans l'air du temps, ou dans ce qui me touche moi. Mais les spectacles en eux-mêmes passent par plusieurs états émotionnels, plusieurs couleurs. J'aime bien surprendre parce que sinon je m'ennuie. Et voilà, en quelque sorte. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si, et je me demandais aussi, est-ce que tout ça, ça dépend des rencontres que tu fais?
Alors bien sûr, des rencontres dans la vie, donc de ce que ça peut provoquer. Et puis une rencontre, ça peut être une rencontre avec l'autre, une rencontre avec soi, avec ce que l'autre déclenche en soi, ce qu'on déclenche en l'autre. Rencontre avec le public, rencontre avec un lieu. En l'occurrence, je joue depuis quelque temps dans un endroit qui s'appelle Bebop Club, qui est à Buenos Aires, qui a changé est passé de San Telmo, donc un quartier du sud de Buenos Aires, un peu traditionnel, tango, tout ça, à Palermo, qui est un quartier un peu plus huppé, un peu, enfin, on va dire plus branché. et qui a, quand je suis rentrée la première fois dans ce lieu, un air de cabaret. Donc je m'étais dit, eh ben, ici, il faut faire un cabaret pour que les gens se parlent. L'important, ce n'est pas seulement ce qui se passe sur scène, mais aussi ce qui se passe dans la salle. Et donc, c'est pour ça que mes cabarets ont un côté ludique. Je demande aux spectateurs de venir avec des masques, des plumes, des chapeaux, enfin, d'être un peu looké cabaret. Et puis moi-même, je leur laisse des choses sur les tables. Et puis c'est la fête. Voilà. Donc, et puis les rencontres avec les musiciens, bien sûr. Donc, j'ai la chance, j'ai eu un groupe assez stable pendant plusieurs années. Et puis j'ai eu envie de changer parce que j'aime bien changer. Et parce que j'avais fait des rencontres de musiciens nouveaux comme Daniel Machor, qui est un trompettiste, et Mariano Sarra, pianiste, que j'avais rencontré pour le spectacle de Jeanne Moreau. Enfin, on s'était rencontrés sur un événement en commun et on a eu envie de faire quelque chose ensemble. Et donc, on s'est dit, on va faire un hommage à Jeanne Moreau. Parce qu'à l'époque, Daniel Major était dans une, ou Daniel Mayol, comme on dirait en français peut-être, était dans un groupe qui s'appelle la Orquesta Inestable. Et donc, comme son nom l'indique, c'était un orchestre. Et donc, on avait envie de monter quelque chose qui soit comme un point de rencontre entre leur univers musical et le mien. Et Jeanne Moreau, je trouve que ça c'était bien. Et c'est à partir de là qu'on a envie de continuer. Donc ça fait plusieurs années comme ça qu'on monte des spectacles ensemble. Tu as nommé Secretos, et ce trio qu'on a fait avec donc Daniel et Mariano, avec lequel on est allé en France, en Normandie, à Paris. Et là maintenant, ils font partie du cabaret. Donc, il y a eu une rencontre aussi avec, parce que pour le cabaret, j'avais un cycle de cabaret. Toutes les semaines, on changeait le répertoire et les invités. Et donc, parmi ces invités, j'ai rencontré Christine Brebs, qui est une violoniste, une magnifique violoniste qui nous vient des États-Unis. Et puis, Rosario Ruete, qui est une danseuse de claquettes. Voilà, donc ça fait, c'est notre troupe qui va être là sur le prochain spectacle aussi.
Je me souviens de la première fois où tu as écouté Piaf et surtout ce que tu as ressenti à ce moment-là.
Alors, je ne sais pas si je me souviens de la toute première fois parce que moi, j'habitais dans le 18e et le week-end, en général, le dimanche, on allait au marché aux puces avec ma maman. Et donc, au marché des antiquaires, il y avait tous les Il y a encore des petits bars qui sont dans l'air du temps d'Edith. Donc, il y avait de la musique de ces années-là. Et je pense qu'il y avait du Piaf. Après, je remarquais pas Edith Piaf en particulier. Ensuite, la première fois que je l'ai associée, enfin que j'associais la musique d'Edith Piaf à son nom, ça a été sur un spectacle que... un hommage à elle qui avait lieu au cirque d'hiver à Paris, qui représentait sa vie. Et j'avoue qu'à l'époque, ça m'avait pas trop marqué, quoi. C'était pas quelque chose qui m'avait fascinée. C'est en étant en Argentine, comme on m'a demandé de faire du Piaf, ça a été une demande, c'est pas venu de moi. Et c'est un peu comme une nécessité. Bon, je suis française, en Argentine. On est un peu resté dans le temps, donc la référence, c'est Edith Piaf. Et elle est vraiment très présente ici, ou en tout cas associée à la culture française. Donc, j'ai commencé dans un endroit qui était un café-concert, enfin un resto tenu par des Français, et où là, j'ai commencé à faire mon cabaret, c'était en 2008. Donc là aussi, j'ai commencé à avoir un spectacle fixe. À chaque fois, je changeais de répertoire et je me donnais un titre avec le personnage de Nana. Donc, Nana à New York, Nana en taxi, Nana je sais pas quoi. Et je mettais des titres en fonction de ça. Et il y avait toujours un Piaf, un ou deux Piaf pour que le public ne soit pas trop perdu. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment tomber amoureuse de ces morceaux, à me rendre compte qu'ils avaient un sens. Enfin, moi, j'aurais jamais osé chanter du Piaf à Paris, par exemple. Parce que Piaf, c'est quand même une icône très, très forte. Et ici, en fait, je me suis rendu compte que ça avait du sens pour tout ce que ça exprimait, toute la nostalgie, tout le sentiment de manque, d'être loin, de souffrir de la distance, de l'absence. Et je me sentais très identifiée avec ça de plus en plus. Et un jour, il y a des Péruviens qui étaient dans la salle et qui m'ont dit « On voudrait que tu fasses un hommage à Piaf dans un théâtre qui vient de réouvrir. » Je dis « Pourquoi pas ?» Et c'est comme ça que j'ai fait tout un hommage à Piaf. Et donc là, je me suis vraiment plongée dans sa vie, dans le choix d'un répertoire, dans découvrir... sélectionné, donc forcément je prends les morceaux les plus connus, mais aussi quelques morceaux qui moi me plaisent plus particulièrement et qui ne sont pas spécialement connus ici. Et en fait, ça fait donc depuis 2009 que je fais cet hommage à Piaf et que je le change aussi. Mais elle est tellement rentrée dans ma vie que ça devient de plus en plus fort et à chaque fois j'ai besoin de rechercher qui elle était. Ce qu'elle a fait, je regarde beaucoup ses interviews, mais aussi les rôles qu'elle a eus. Et ce qui est magique, c'est qu'à chaque fois sur scène, c'est nouveau, quoi. C'est vraiment. D'ailleurs, là, je participe de la création. Il va y avoir une nouvelle création à Madrid d'une jeune chorégraphe argentine qui s'appelle Kill Me. Donc, la première aura lieu dans longtemps, en mai de l'année prochaine. Et Piaf va être présente. C'est à quel point elle est rentrée dans ma vie, quoi.
Elle t'accompagne.
Je crois que, en fait, si on lit ou on suit un peu toutes les personnes qui l'ont interprétée, que ce soit sur scène, dans les films ou à petite échelle, c'est quelqu'un qui te hante, quoi. Enfin, elle te lâche plus. Une fois qu'elle rentre dans ta vie, elle n'en sort plus, hein.
Et puis évidemment, il y a une question qui me brûle les lèvres, en fait, plusieurs en fait. C'est
Ouais.
comment tu décides un jour de quitter Paris pour Buenos Aires? Et surtout, pourquoi l'Argentine?
Alors moi, je dansais le tango à Paris. Et puis petit à petit, j'ai rencontré des Argentins. À l'époque où j'ai commencé à partir, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il y avait tout un mouvement de nouvelle vague de cinéma argentin. Donc, je me suis intéressée à la culture argentine depuis Paris. Et jusqu'au jour où je me suis dit, bon, bah, il faut quand même que j'aille à Buenos Aires. Je ne voulais pas parce que c'était la Mecque. Alors, je ne veux pas faire la Mecque du tango. Je trouvais que c'était un peu… C'était trop cliché. Mais finalement, je me suis dit, allez, on y va. C'est la première fois, c'était en 2003. J'ai fait juste un petit voyage éclair. Et j'ai senti quelque chose de très fort avec cette ville. J'ai senti que ça allait me manquer. J'ai mis 2 ans avant de revenir. Et les périodes de temps où j'étais à Buenos Aires sont devenues de plus en plus longues et celles où j'étais à Paris de plus en plus courtes, jusqu'à ce que je me sois définitivement installée là. Et voilà. Et je ne sais pas si j'ai répondu.
Mais si, si, mais c'est aussi quelque chose qui me parle forcément. Même si je n'ai pas installé là-bas. Mais justement, qu'est-ce que tu as rencontré là-bas qui t'a donné envie d'y rester depuis 18 ans maintenant, non?
Oui, presque. Ben, c'est une. Moi, j'étais toujours en recherche d'une identité. Parce que ma mère est allemande, mon père tunisien. On me considère comme française. Alors oui, j'ai la nationalité française. Oui, je suis née en France. Oui, j'ai toute une culture française, hippocagne-cagne, tout ça. Enfin, je veux dire, je pense que je suis vraiment française. Mais il y a quelque chose qu'ont les Argentins qui est ce métissage, européen, auquel je me sens vraiment… je m'identifie profondément. Et ce qui est vrai pour Edith Piaf, enfin, quand je parlais d'Edith Piaf, c'est l'extrañamiento, c'est-à-dire le sentiment de manque, il nous manque quelqu'un, de regretter, et d'être loin de son pays et d'être des immigrés et de construire un rêve en commun. Il y a une ambulance qui passe, je ne sais pas si on l'entend. C'est cette envie de construire du rêve ensemble. La notion de mythe est très très importante, je pense, pour la culture argentine, ou en tout cas si on veut comprendre le peuple argentin, en tout cas le Buenos Aires. C'est pas un hasard si l'Argentine, ça s'appelle Argentine, c'est quand même des explorateurs qui pensaient trouver de l'argent, du métal en Argentine, et il n'y en a pas, en tout cas pas là, dans la région de La Plata. La Plata, c'est aussi l'argent. Mmh. Et les gens sont restés parce qu'il fallait continuer à croire que c'était l'Eldorado. Il fallait continuer à construire du rêve ensemble. Dire que là, c'était vraiment la terre promise. Donc, même si c'est des marécages, même si c'est pas du tout le paradis, l'idée, c'est de créer un paradis tous ensemble. Alors, forcément, bon, on crée sur du sable mouvant, hein. Donc, ça s'écroule tout le temps. Il y a des crises. Il y a le fameux chamucho argentin, c'est-à-dire le blabla. On va se raconter une histoire, raconter des histoires à l'autre. Et je pense que c'est ça, c'est le fait de créer un monde nouveau qui est dans le présent, où l'autre compte énormément, c'est-à-dire être avec l'autre. C'est vraiment c'est pas le côté individuel comme on a en Europe. C'est vraiment être ensemble et se débrouiller et avoir le droit de faire des choses qui sont peut-être pas très, enfin qui sortent des normes un peu. Et moi, en tout cas, j'ai trouvé un espace de création formidable avec des gens qui étaient prêts à s'embarquer avec moi. Enfin, j'ai trouvé des musiciens, mais aussi au niveau du théâtre. On a le droit à l'erreur, par exemple. Ça, c'est fondamental, avoir le droit à l'erreur. Et on n'est pas obligé d'avoir suivi un parcours exemplaire ou de s'être mis sur... je sais pas, enfin une voie comme ça, la voie royale pour réussir ou pour, je sais pas, même les gens qui réussissent, ils peuvent échouer et c'est normal et c'est pas grave. Après c'est terrible aussi.
Ouais, c'est cette absence de peut-être de jugement permanent et ce qui fait que tu t'intègres plus facilement à tout ça finalement.
Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, le côté où il n'y a pas de permanence t'oblige à recourir à des ressources que tu ne soupçonnais pas chez toi. Ou c'est comme une sensation de vertige, tu vois, ou comme dans le tango. Pour avancer, il faut se mettre en déséquilibre. C'est le fameux équilibre dans le déséquilibre. Donc là, vraiment constamment
et comme une nécessité de se réinventer finalement
constamment. Ça peut être fatigant, là j'avoue que je suis un peu fatiguée parfois, mais si tu es dans le monde de la création, c'est fondamental. Je pense que je ne pourrais pas vivre par exemple dans un pays comme la Suisse parce que je verrais pas ce que je pourrais dire, quoi. J'aurais pas ma place. Il n'y a pas de place dans un monde parfait.
Porque sabe que ríe. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve. Tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro un bombón. Bombón casamiento.
devoir terminer nuestra charla, une conversation en espagnol qui bien souvent s'accompagne d'un maté. Mais bon, faut pas commencer à parler de ce qu'est le maté, parce que là, du coup, ça durera forcément des heures. Alors, juste deux questions avant de nous quitter. T'en as déjà parlé tout à l'heure un petit peu, mais à partir donc de mai 2024, tu joueras dans la nouvelle création de l'Argentine, Marina Otero. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ou est-ce que c'est top secret?
Non, c'est pas top secret. C'est le troisième volet de, donc, d'une trilogie qui a commencé par Fuck Me, Love Me, et là c'est Kill Me. Donc c'est des formules un petit peu choc, comme elle peut l'être. Alors là, c'est vraiment l'exemple de ce dont je parlais, c'est-à-dire une Argentine qui s'est formée dans le l'underground argentin et qui passe sur le devant de la scène et qui plus est en Europe. C'est-à-dire que ces deux pièces antérieures font la tournée des grands théâtres européens. Et Fuck Me, Kill Me, sa nouvelle création, on est 6 interprètes, on est complètement différents. La plupart sont issus de la danse, là encore de différentes danses. Et c'est autour, toutes les pièces de Marina Otero sont autoréférencées. Donc, c'est autour de son syndrome de borderline. Donc, ça traite de la foule, de la folie, des troubles psychologiques. Et chaque interprète, on représente une forme de folie différente. Voilà. Je sais pas si. Donc, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a du texte, et il y a surtout beaucoup de tripes sur scène, et c'est une mise à nu de tout le monde, quoi. Et au sens propre et au sens figuré, d'ailleurs.
Et la première, elle aura lieu où?
À Montpellier. À Montpellier. Ah. Et après, on sera au Teatro del Canal à Madrid. Et après, sans doute, à Zurich. Enfin, je ne sais pas encore. Tout ça, c'est ça confirmé. Parce que tant qu'on n'a pas encore créé la pièce.
Un peu de patience, alors.
Tout à fait.
Et enfin, última pregunta. Donc, après tous ces moments passés sur scène, toutes ces chansons partagées, quel est ce rêve que tu souhaites par-dessus tout voir se réaliser?
De toujours savourer l'instant présent et de savourer toutes les choses qui sont là. Et transmettre ça au public. Déjà, moi, quand je suis sur scène, ma mission, enfin, mon objectif, c'est de réveiller l'enfant intérieur du public pour justement aller au-delà de cet esprit critique qui vient nous, de cet état cérébral qui vient nous gâcher le plaisir, pour qu'on soit vraiment dans un mode qui soit cette sensation un peu de quand on rêve, on ne peut pas juger. Là, on passe d'un état à l'autre, d'un lieu à l'autre. Ben, ça peut générer ça chez l'autre. Toucher toutes les fibres sensibles de l'autre.
Merci beaucoup, Liana, pour ta participation dans Un Puente sobre el Océano. Et je te souhaite de continuer de partager avec ton public de très nombreux succès.
Merci mille fois. 6000 fois, Jérôme, et plein de succès pour ton émission. Et merci.
Merci. Hasta luego.
Hasta luego. Ciao.
Je suis partie faire un tour. Je suis partie pour toujours, pour que peut-être un jour tu regrettes mon amour. J'ai fui au bout du monde. Gronde, que mon âme vagabonde s'arrête une seconde. J'ai fui au bout du monde, mais comme la terre est ronde, j'ai dû reprendre place. je fuis au bout du monde, où mon âme vagabonde, que mes rêves d'avant devancent encore ma danse. Choisis de le dire, partir au bout.